Cours de physique proposé par physagrec.fr. Formulaire de physique. Chapitre d'électricité. Rappelons tout d'abord la relation entre la charge et l'intensité du courant. L'intensité du courant électrique est un débit de charge électrique. Plus le nombre de charges qui traversent une section de conducteur pendant un certain temps est grand, plus l'intensité du courant est grande. Cette quantité de charge est égale à la variation dq de la charge portée par l'armature A, par exemple du condensateur, pendant un certain temps dt. On a donc I égale dq sur dt, I intensité du courant en ampères, Q charge de l'armature en coulomb, T temps en secondes. Capacité d'un condensateur, elle est définie grâce à la relation entre la charge Q portée par l'armature d'un condensateur et la tension aux bornes du condensateur. On a donc Q égale C fois U, grand C la capacité du condensateur en farad, Q la charge de l'armature positive du condensateur en coulomb, et U, la tension au bord du condensateur, en volts. Étude théorique de la réponse en tension d'un dipôle RC. On a l'équation différentielle lors de la charge du condensateur qui donne UC plus R fois C fois DUC sur DT égale grand E. La solution de cette équation différentielle est UC égale grand E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Taux étant la constante de temps du dipôle RC, donc taux égale R fois C, taux exprimé en secondes. Pour la réponse en courant lors de la charge du condensateur, on a I de T égale E sur R exponentielle moins T sur taux. Pour trouver la constante de temps du charge du condensateur, la méthode la plus élégante est de tracer la tangente à l'origine à la courbe UC de T et l'asymptote à la courbe quand T tend vers plus l'infini. Cette asymptote et la tangente à l'origine se coupent en un point et l'abscisse de ce point d'intersection nous donne la valeur de taux en secondes. Énergie emmagasinée dans un condensateur, EC égale 1 demi de C fois UC au carré. EC est l'énergie emmagasinée en joules, C la capacité du condensateur en farad et UC la tension aux bornes du condensateur en volts. Expression de la tension aux bornes d'une bobine, nous avons UL égale petit R fois I plus grand L fois DI sur DT. Petit R est la résistance interne de la bobine en ohm, grand L l'inductance de la bobine en henry, et I l'intensité du courant en ampères, UL étant la tension aux bornes de la bobine en volts. Cette relation fait apparaître qu'en régime permanent, le terme DI sur DT est nul, et donc la tension aux bornes de la bobine est petit R fois I, ainsi la bobine se comporte comme une résistance et donc n'a pas d'intérêt. Donc la bobine est intéressante qu'en régime transitoire, c'est-à-dire quand l'intensité du courant varie dans le circuit. Étude théorique de la réponse en intensité d'un dipôle RL. On obtient l'équation différentielle petit i plus grand L sur R fois DI sur DT égale grand E sur grand R. Cette équation donne comme solution I de T égale grand E sur grand R facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Taux étant la constante de temps du dipôle RL, taux égale grand L sur grand R si la résistance de la bobine est négligeable, sinon c'est grand L sur grand R total, résistance totale du circuit. Pour la réponse en tension aux bornes de la bobine, lors de la charge entre guillemets de la bobine, on obtient UL égale grand E fois exponentielle moins T sur taux. Pour la constante de temps de ce dipôle RL, taux égale grand L sur R total, on va la déterminer comme pour le condensateur, c'est-à-dire en traçant la tangente à l'origine de la courbe I de T, l'asymptote quand T tend vers plus l'infini à cette courbe I de T, et le point d'intersection va nous donner, avec son abscisse, la valeur de taux en secondes. Énergie emmagasinée lors d'une bobine, on a grand E indice grand L égale 1 demi fois grand L fois I carré. EL est l'énergie emmagasinée en joules, grand L l'inductance de la bobine en henry et I l'intensité du courant circulant dans le circuit en ampères. Les quatre régimes possibles pour les oscillations électriques. Le premier c'est le régime pseudo-périodique, quand l'amortissement est faible, c'est-à-dire la valeur de résistance totale du circuit petite. On a alors des oscillations dont les amplitudes décroissent et on définit une pseudo-période grand T. Régime apériodique, l'amortissement est trop fort, c'est-à-dire la valeur de la résistance totale du circuit est trop importante, alors il n'y a plus d'oscillation. Régime critique, on a une valeur de R total pour lequel on passe du régime de pseudo-périodique au régime apériodique, on l'appelle alors le régime critique, il n'y a pas d'oscillation dans celui-ci. Et régime périodique, à ce moment-là l'amortissement est négligeable, donc la résistance totale du circuit est négligeable. et on a une période d'oscillation qu'on note grand T0. Et les oscillations sont non amorties. Prenons le régime pseudo-périodique et interprétons énergétiquement ce qu'il se passe. On voit que l'énergie donc globale dans le circuit diminue. Et on voit aussi que lorsque l'énergie du condensateur est maximum, l'énergie dans la bobine est nulle. Et bien en effet, il y a transfert perpétuel entre l'énergie du condensateur 1/2 fois C fois UC carré et l'énergie emmagasinée dans la bobine 1/2 fois L fois UR sur R, le tout au carré, donc I au carré. Cette énergie donc décroît du fait de l'amortissement par la résistance totale du circuit. Et donc, en fait, c'est une perte énergétique par effet Joule dans le circuit. Donc, le transfert n'est pas perpétuel puisqu'il y a cet amortissement. Si on établit l'équation différentielle de l'oscillateur non amorti, on obtient D2 de UC sur DT2 plus 1 sur LC fois UC égale 0. On peut vérifier qu'une solution du type UC de T égale grand UM fois cosinus oméga 0 T plus phi vérifie l'équation différentielle. On a alors UM qui est appelée l'amplitude des oscillations en volts. Oméga 0, c'est la pulsation des oscillations, pulsation propre, donc qui s'exprime en radians par seconde. Et oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Et phi, la phase à l'origine qui s'exprime en radians. La pulsation propre oméga 0 égale 1 sur racine de LC nous permet de définir la période propre des oscillations. T0 égale 2π sur oméga 0. Donc T0 est égal à 2π racine de L fois C, L en henri et C en farad. Donc T0 s'exprime en secondes. Vis-à-vis de cette solution de l'équation différentielle, il faut savoir que grand UM et phi sont déterminés par les conditions initiales qui ont donc une importance très grande. On peut exprimer l'intensité du courant lors de ces oscillations périodiques. On sait que I est égal à dq sur dt égale grand C fois duc sur dt. Donc si on dérive la solution donnée de tout à l'heure, UC de T, et qu'on multiplie par C, on obtient l'intensité, ce qui donne I de T égale moins C fois oméga 0 fois UM, sinus de oméga 0 T plus phi. On va avoir donc un déphasage entre l'intensité et la tension de pi sur 2, dû à la fonction cosinus et à la fonction sinus. On sait entretenir les oscillations d'un oscillateur amorti. En effet, en apportant de l'énergie de même type que celle qui est perdue au circuit, on va pouvoir réguler les oscillations et obtenir des oscillations constantes. Alors pour cela, on utilise un montage à résistance négative qui prend en compte un amplificateur opérationnel, lui-même alimenté en moins 15 plus 15 volts, qui permet en fait d'apporter l'énergie. Donc on va apporter le même type d'énergie que celle qui est perdue, c'est-à-dire l'énergie électrique. Et pour cela, il faut calculer exactement ce qui est perdu. Eh bien, ce qui est perdu par effet Joule R total fois I carré. Donc il va falloir apporter, grâce au montage à résistance négative, eh bien, la même quantité d'énergie. Donc pour cela, on va avoir dans le montage à résistance négative une résistance variable qui va nous permettre d'obtenir exactement l'amortissement des oscillations. Et donc on aura un circuit RLC entretenu avec des oscillations non amorties, dont la période sera identique à la période propre des oscillations du circuit si l'amortissement était négligeable. Donc T égale ou T0 égale 2π racine de LC.